Déjà, j'attire votre attention à nouveau. La première, c'est que la mention de son nom au dé du tour a une portée différente de la prière pour les autres vivants. Vous verrez tout à l'heure, en suivant votre messe, la mention du pape et de l'évêque, et éventuellement du chef de l'État, est incorporée au dé du tour. Et ensuite seulement, il y a le memento des vivants. Et le memento des vivants, comme le memento des morts, sont des interruptions du canon. Ce que je répète, on a toujours conçu les choses comme cela. On interrompt le canon de la messe, c'est-à-dire la règle ordinaire de la messe, pour faire mention des personnes pour qui, lesquelles, avec qui se célébrait. Mais les deux mentions, celle du Te Igitur et celle du memento, qui se suivent, qui s'enchaînent, pour ainsi dire, elles n'ont pas du tout la même portée. La mention dans le Te Igitur relève du mérite des condignaux, c'est-à-dire que toute messe porte un fruit pour le prêtre qui la célèbre, pour les assistants qui y participent, de droit. Quoi qu'on fasse, quelle que soit l'intention de la messe qui est précisée au memento, et le prêtre qui célèbre, pour les fidèles qui participent, ont un certain fruit de la messe. Eh bien, de même, le pape, qui est chef de l'Église, l'évêque, qui est chef du diocèse, ont droit à un fruit de toute messe. C'est une question de droit. Ce n'est pas une question et de gratuité de la part du bon Dieu. Le bon Dieu s'engage, pour ainsi dire, par le fait même que quiconque offre le sacrifice mérite. C'est une loi métaphysique. Si nous faisons une œuvre bonne, nous avons un prix de cette œuvre bonne que nous accomplissons, ipso facto. Plus ou moins, selon une disposition, mais il y a un prix qui est attaché nécessairement à toute position d'un acte bon. C'est sur ce principe que repose le fait que le Christ est chef du corps mystique. Donc c'est un principe très assuré, c'est le fondement même de l'Église. Et donc, et dans la première partie, au Te Igitur, ce que nous demandons, la mention du pape, et c'est vrai qu'on prie pour le pape, mais on prie de telle manière que le fruit que l'on demande à Dieu est certainement assuré. Il s'agit d'un mérite de condignaux. Tandis que les fidèles que l'on mentionne dans le memento, eux, reçoivent sans doute, mais enfin, pas toujours. Quand nous prions, nous prenons une messe pour une intention, nous escomptons bien que le bon Dieu nous accorde ce que nous demandons, enfin, il est libre de le faire. Il serait bien se servir du fruit de la messe pour autre chose que ce que l'on a assigné. Et en termes théologiques, on appelle ça le mérite des congrus. Ce n'est pas un mérite qui est dû. Tandis que le premier est dû. Et par conséquent, mentionner Monseigneur Vatinac qui est élu pape au canon de la messe, c'est signifier qu'on offre la messe avec lui. Ce n'est pas seulement question de prier pour, c'est le fait que lui-même est à l'origine du mandat ad ecclesiam qui est nécessaire pour offrir la messe. Du fait qu'il reçoit nécessairement un fruit de la messe, il fait partie de ceux qui offrent la messe. Vous comprenez bien ça, parce que c'est un point extrêmement important. En sorte que mentionner Monseigneur Wojtyla au Te Igitur et pas au memento. Moi, je suis tout prêt à dire une messe pour la conversion de Monseigneur Wojtyla. Je mentionnerai alors son nom au memento des vivants. Mais je ne le mentionne pas au Te Igitur. Parce que le mentionner au Te Igitur signifie que lui offre la messe avec nous. Et alors, nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui pourra faire l'hérésie soit à l'origine du sacrifice. C'est très clair. Et je ne comprends pas, vous voyez, que Monseigneur Lefebvre et d'autres s'obstinent à ne pas vouloir comprendre. On veut confondre. On veut confondre les deux choses, le memento des vivants, avec la fin du Te Igitur. Et il est vrai que dans les formules liturgiques, les formules se suivent, pas, mais elles sont de nature différente. La seconde chose concernerait les discours de Monseigneur Wojtyla à Saint-Denis, mais je ne les ai pas. Alors je ne peux pas vous en parler, je me borne simplement à tirer votre attention sur ce qu'il a dit concernant l'infaillibilité. Une dernière petite note, la lettre aux évêques d'Allemagne. Et c'est encore un discours extrêmement captieux. Il ne dit rien de faux. Mais il rappelle que Jésus n'a pas pu ne pas, c'est la formule qu'il emploie, Jésus n'a pas pu ne pas laisser à son Église l'infaillibilité. C'est indubitable. Et que l'Église, prise dans son ensemble, est infaillible. Mais il oublie de dire que l'infaillibilité réalité, elle se concrétise, elle est réalisée dans la personne du pape. Alors il le dit sans le dire, il le dit suffisamment pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'ignorer, c'est-à-dire que Vatican II hérite de Vatican I. Mais si on regarde les actes de Vatican II, on voit bien que la notion même d'infaillibilité est changée. Et ça, Paul VI l'a dit, petitement, il a dit que c'est un concile plus important que Nicée. Et c'est vrai parce qu'en effet, on a voulu substituer à Vatican II une notion d'infaillibilité qui est différente de celle de Vatican I. On conserve le mot, mais on change le contenu. Eh bien, oui, cette lettre de l'évêque d'Amen peut servir à cela. Il a raison en affirmant que l'Église, dans son ensemble, dit l'infaillibilité, mais en admettant de dire que cette infaillibilité, elle est réelle, elle se concrétise, elle ne peut être réalisée que dans la personne du souverain pontife, il laisse la porte ouverte, une sorte de plébiscite qu'il excelle d'ailleurs à faire. Ce qu'il fait en ce moment, c'est une manière de plébiscite dans l'Église. Tous les Français, maintenant, vont croire, mais le pape, il a raison. Tout le monde est avec lui. Voilà. Processus est engagé. C'est un processus de démocratisation de l'Église. En ça, c'est que, tout en affirmant que l'Église est infaillible, il change la notion d'infaillibilité. Et l'infaillibilité, ce sera le consensus de toute l'Église. Manigancé, manipulé, bien entendu. C'est ce que je vous dis là, et j'ajoute cette précision que je crois pourrait ajouter. Cette conception de l'infaillibilité, c'était celle du Père Convert il y a 25 ans. Elle est passée. Elle est passée dans Vatican II, et elle passe de Vatican II dans Monseigneur Mottila. C'est donc, oui, la structure même de l'Église qui est faite. On ne comprend vraiment pas que les gens, dans ce peuple, qui devraient être clairvoyants, se laissent berner dans ce point. Avec ce qu'il fait, les actes qu'il pose, il peut très bien dire que ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité. Et notamment sur ce point essentiel de la liberté religieuse, entendu au sens fallacieux, c'est-à-dire que quiconque a le droit d'affirmer publiquement et positivement sa conviction en matière religieuse, il va faire passer cette doctrine qu'il pose, il l'a fait passer par une notion de fallibilité qui est fausse. Donc, il faut résister. Il faut résister et être lucide sur les principes qui sont engagés. Ils n'attaquent jamais de front les principes, ils les connaissent assez pour les tourner, mais ils les expriment d'une manière qui n'est pas fausse, mais de façon que le sens qui sera appliqué, le sens qui sera utilisé, soit complètement faussé. Et ainsi, l'Église est détruite, mais dans sa structure, dans son essence. La messe détruite par la nouvelle messe, et la notion de magistère est complètement éclatée, elle va être démocratisée. C'est évidemment, pour vous en insister, c'est juste l'inverse, c'est pas, d'une religion révélée, et des promesses qui sont faites à Pierre. Tu es Pierre. Jésus n'a pas dit donner l'infaillibilité à l'Église considérée de manière diffuse. Il l'a donné en la personne du souverain pontife, et l'élaboration qui a demandé 20 siècles a abouti à la définition de Vatican I. Si on prend le contre-pied de cette définition, et on remet une toute autre. Ce sont des choses très très tristes, un grand combat à mener.